Violence faite à la femme, cas du mariage forcé. En République démocratique du Congo, certaines filles ou jeunes femmes sont parfois données à mariage sans leur consentement. Une fille peut être forcée de s'unir à un homme pour des intérêts matériels ou pour des motifs liés à la coutume. Dans bien des cas, ce type d'union constitue un véritable calvaire pour ces femmes. Quelles sont les sanctions prévues par la loi congolaise en matière de mariage forcé? Nous en parlons aujourd'hui avec Tati Mapoukou. Tati, bonjour.
Bonjour, Jody.
Alors, quelles sont les personnes qui négocient généralement ce genre de mariage?
Dans certaines familles, ce sont les parents ou les oncles qui choisissent le mari pour leur fille. Et la dot varie d'une province à une autre. Pourtant, la loi relative à la violence sexuelle stipule dans son article 174 ce qui suit. Est puni d'une peine de 1 à 12 ans de servitude pénale et d'une amende ne pouvant être inférieure à 100 000 francs congolais, toute personne qui exerce une autorité ou tutélaire sur une personne mineure ou majeure l'aura donnée en mariage ou encore l'aura contrainte à se marier. Le minimum de peine prévue à l'alinéa premier est double s'il s'agit d'une personne âgée de moins de 18 ans. Pour avoir de plus amples détails sur ce que dit la loi, nous avons joué au téléphone Mme Mujenga. Elle est présidente près du tribunal de paix de Matete. Nous pouvons l'écouter.
L'actuelle loi sur le violence sexuelle, il s'agit de la loi du 20 juillet 2006 qui a modifié et complété le décret du 30 janvier 1940 sur le code pénal, prévoit en son article 174F le mariage forcé. Il s'agit de toute personne qui exerce une autorité parentale ou tutélaire, c'est-à-dire qui est un parent, père ou mère, ou qui est tuteur d'une personne, cette personne qui soit majeure ou mineure, mais qui l'aura forcé à contracter un mariage. Voilà ce que la loi actuelle sur les violences sexuelles prévoit comme infraction. Ce comportement-là est érigé en infraction qui s'appelle mariage forcé. Oui, le législateur congolais a prévu une sanction de 1 an à 12 ans de servitude pénale principale et une amende. Mais ça, si le cas, s'il s'agit d'un cas d'un mineur, c'est-à-dire une personne âgée de moins de 18 ans, cette peine de 1 an à 12 ans, le maximum de 12 ans sera doublé. C'est-à-dire s'il s'agit d'une personne qui de moins de 12 ans qu'on aura obligé à contracter un mariage contre son gré, la personne qui l'aura obligé sera sanctionnée d'une peine de servitude pénale de 24 ans.
Voilà, c'était la Madame Mujenga, elle est présidente près le tribunal de paix de Matete. Alors Tati, on comprend que la législation congolaise sur les violences sexuelles condamne le mariage forcé.
Effectivement, je dis, mais il faut savoir que dans notre culture, il est souvent difficile de résister aux propositions de parents ou encore de porter plainte contre ses géniteurs. Au cours de notre reportage, nous avons rencontré une dame qui était contrainte au mariage forcé alors qu'elle avait 17 ans. Mm-hmm. Elle s'en est sortie difficilement il y a quelques années et elle nous révèle comment ça s'est passé, suivant son témoignage.
Bon, il y a un arrangement entre les deux familles, donc Naimoko n'a pas vraiment intéressé, mais parce que il y a un point macassi, il y a un obligé à continuer à vos parents. C'est comme ça que le mariage est à ma qui n'est, il y a un consentement à mon côté, il y a un à mon côté. Et bon, on a la monita ça va et quoi, donc il y a qui comment on discute, il y a qui qu'on s'impose quoi, donc on va éviter que ils aboient, on va la joie à balayo, ce qu'on met moi si au bonheur à l'ibala et tout ça que bah tout n'a rien à gagner, donc il y a qui façon mon corps vraiment y a ma casse quoi, donc on a dit que on a l'homme, on va le temps à se présenter qui n'a pas besoin d'appeler, bah y a mes parents, n'a pas tout aussi alors. Qui n'a choisi, donc il faut piger, il a continué à mes parents, il a tout ça, mais donc c'est qui me dit voilà.
Tu avais quel âge à l'époque?
J'ai 17 ans. Et tout ça, avec madame, tu sais. Quand même, madame, attends, c'est parce que, d'après, on a la moindre qui a un mot qui balaté, il y a qui boum. Donc, on a comme on a dit balaté, on a comme on a mot boum, il y a qui, ici, quand on a collé là, on a collé là, rata collé là. Donc, il y a qui, c'est moi, il n'y a pas si ma tête. Non. Parce que j'ai mon copain avec ok la façon mon copain a imposé ngai donc à deux me marrer la macati donc il a se retrouver il a comprendre que finalement ils aient ni donc ils aient qu'une dégueu en la situation moi un dégueu.
Voilà, c'est quand même dramatique. Une femme qui vit avec un homme qu'elle n'aime pas depuis l'âge de 17 ans, elle devait obéir à ses parents, donc qui l'ont imposé, cet homme, que dit la loi congolaise face à tout cela? Vous pouvez déjà réagir, vous avez des témoignages là où vous êtes. Appelez-nous au 081-890-63-94. Vous pouvez également envoyer vos SMS au 081-070-2050. Et si vous nous écoutez sur Internet, écrivez-nous à l'adresse action@radiokapi.net. Alors, Tati, en cas de refus, qu'est-ce qui arrive généralement à la jeune fille?
Ben, je dis, il faut dire que le fille qui refuse le mariage proposé sont considérées comme désobéissantes à leurs parents, surtout s'il s'agit de propositions consanguines. Dans la province de Banoulou, par exemple, pour préserver les biens et les liens familiaux, la coutume souhaite que le mariage ne soit conclu que parmi et entre les enfants d'une même famille. Ça s'appelle le phénomène Kintsudi. Et très souvent, les promesses se font dès le bas âge. Mais il faut savoir que la loi n'opère pas de distinction en matière de mariage forcé. Écoutons encore une fois de plus ce que Mme Mujenga affirme à ce sujet.
La loi sur les violences sexuelles n'a pas fait cette distinction. Le législateur a pris seulement en considération l'absence de consentement de la personne qu'on veut donner en mariage. Si la personne n'est pas consentante à ce moment-là, c'est lui qui l'oblige à contracter ce mariage tombe sous le coup de l'article 174 qui prévoit le mariage forcé. Dans le code de famille, l'article 395 prévoit la sanction contre l'officier de l'état civil qui aura un mariage entre des personnes qui sont de la même famille. Par exemple, l'article 353 prévoit les cas de mariages qui sont prohibés. Ce sont les mariages entre ascendants et descendants, c'est-à-dire les enfants d'un même père, d'une même mère, donc les personnes qui descendent d'une même souche, quoi. Et il y a aussi le cas des frères et sœurs germains, que nous appelons communément les cousins et les cousines. Il y a aussi les demi-frères et les demi-sœurs. Ce mariage-là est prohibé par la loi. Il y a d'abord une sanction qui consiste en ce que un mariage pareil ne peut pas être enregistré. Alors la conséquence est laquelle? C'est que l'officier de l'état civil qui aura enregistré ce mariage ou qui l'aura célébré sera sanctionné d'une peine de servitude pénale de 7 jours à 2 mois.
Voilà, Tati, il faut tout de même reconnaître que l'évolution des mentalités est en train de prendre le pas sur certaines considérations coutumières.
Tout à fait, je dis, quoi que c'est vrai ce que vous affirmez, il faut néanmoins savoir que le mariage forcé s'est compté de plusieurs façons. Bien que la loi congolaise interdit le mariage forcé, certaines familles demeurent encore dans cette pratique car bon nombre des parents préfèrent souvent tirer bénéfice de leurs filles ou préfèrent les voir socialement stables dans les mariages, ce qui est souvent synonyme de confort. Mais les mariages forcés a des conséquences non négligeables sur la stabilité du couple, suivant ces témoignages.
Oui, na moni yango na voisine na biso avec qui dans la sixième primaire. D'ailleurs, les noms toujours le bazar sous tout ça coupé naé. Donc avec ma sixième primaire, alors mobile y a pas eu quoi pour quoi balayer. Alors ceux qui mobile y a eu, y a qui m'a capoté na c'est un bête. Maman naé qu'on a d'ailleurs na c'est un bête, abimité na c'est un bête. Kaka a qui est na mobile wana. Donc y a d'ailleurs qu'on ingaté, bah c'est la marque si juste à ce que mobile paye aya qui a balayé. Alors tant bah c'est net, y a qui paye kaka pas si marque si pour naé. Y a qui donc coule l'année la colonie on sort jusqu'à ce que mobile aya qui comme même naé. Sida. Alors moi si on a qui très jeune, alors que ceux qui attendent qui battent la finale, ceux qui attendent qui très bien encadrés, peut-être que si les autres mettent pas peut-être que si les mains sur tout ça naïe, mais parce que quand c'est qu'il a dit bah la moko oh yé moko avec qui est capable de maîtriser mon bali, donc mon bali avec qui une dictature makasi, yé moi avec qui nous kémingi, mon bali à cause de des autres moyens pour à contrôler mon bali, c'est un moyen avec ça mon bali il est là, donc avec la maîtrise de bala c'est quoi, et là qu'on a encore une gaze ali ba parents ba vraiment qu'on charge bana ba mon dingue singeli ba tangisi bana ba komisa ba ngoti mwana komi responsable ba responsabilise mwana le mwana aza bien préparé ba ibisi pe ni za ili bala le mwana ba tiki mwana aza la choix bien sûr ba koyi ko aider na choix ya na choix na ye mais vraiment eza te loko moko ba fait ça on en bang bang.
Voilà, donc on vient de suivre le témoignage de cette dame.
Cette dame est donc témoin oculaire d'un mariage forcé qui a fini mal, quoi.
Donc une jeune fille à qui sa mère a
12 ans, sa mère l'a contrainte d'aller en mariage
avec un monsieur qui après lui a donné le sida, c'est ça. Et elle est morte
de cette maladie.
Mmh. Et pendant tout le temps qu'ils ont vécu ensemble, c'était les calvaires
pour la petite fille, avait 12 ans.
C'est quand même dommage. Là où vous êtes, vous avez peut-être d'autres témoignages. N'hésitez pas à nous appeler. Alors, Tati, est-ce que, pour terminer, est-ce que la loi condamne aussi le lévirat?
Je dis, il faut dire que le tout dépend du consentement de la femme. Notons que le lévirat est une pratique coutumière qui stipule que la veuve doit se marier au frère de son défunt mari. Car, selon certaines coutumes, la femme est un bien de la famille. De ce fait, elle doit rester dans la famille. Mais, selon toujours Mme Mouginga, présidente près du tribunal de paix de Matete, la législation congolaise a déjà interdit le lévirat. Suivons-la encore une fois de plus.
En cas de lévirat, comme on dit, vous savez, le problème, c'est un problème toujours de consentement. Mais la loi dit qu'on ne peut pas obliger quelqu'un. De toute façon, le lévirat a déjà été interdit par la loi. Le lévirat a déjà été interdit par la loi. Sauf que, vous savez, ce qui se fait souvent dans nos cités n'est pas porté à la connaissance de l'organe de la loi qui peut poursuivre et sanctionner. Mais le lévirat est déjà interdit. Parce que, c'est, vous savez, le code de la famille a eu à abroger toutes les coutumes qui étaient contraires aux bonnes mœurs et qui avaient tendance à pouvoir, disons, mettre la femme sous l'état de l'esclavage, quoi. À prendre la femme comme une chose. À l'époque, c'était prévu, mais on a déjà abrogé cela. Ça n'existe plus. Ça, c'est par rapport au code de la famille, mais pas par rapport au code pénal. Parce que le code pénal, sur les lois, dans les dispositions qui parlent des violences sexuelles, ne prévoit pas ça.
Voilà, c'était la Madame Mouginga qui parlait du lévirat. Elle affirme que cette pratique est déjà abolie par la loi. Nous ferons le point tout à l'heure, Tati, avec notre invité. Nous vous disons merci et à la prochaine.
Je vous en prie, jeudi.
J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, oh princesse. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi. J'aimerais tant que ton discrétion, tu aies confiance en moi.
Bonjour, vous êtes bien sûr un peu pour l'heure. Je suis imaginable pour le moment. Mais tu m'as gentil, mais t'as des choses à faire aujourd'hui. Jamais. Tu es l'équipe d'un désert, hyper naturel, qui te met les boules dans la gorge. C'est un radio, je m'avais, tu prends du cœur, c'est un appel. Tu sors dans des idées, tous les jours, ton visage, ta croix, ton regard m'enchancelle. Pour moi, je suis formel, je le passais pour toi, ma belle, pour allumer la flamme. Je serai ton étincelle, qui est au bout du tunnel, car loin des superficiels. On est un cérébré, tu es mon essentiel. J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, oh princesse. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi, mon cœur s'envole, my love. J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, oh princesse. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi. J'aimerais tant que le temps d'une seconde, tu aies confiance en moi.
Tonight, then, j'ai pour toi mes effets showtime. J'irai décrocher la lune pour voir mon étoile. Je laisse pas mon cœur pleurer de pas être à tes côtés. Car tu es ma fille, c'est point de bas, oh musical. J'suis un peu charmant, pas pour ton gentleman. Ne cherche pas plus loin, bébé, j'ai ton idéal. Enfant pour longtemps, pour moi le principal. C'est vivre à tes côtés que le bonheur s'installe.
J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, oh princess. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi. Mon cœur s'envole, my love, bye. J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, oh princess. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi. J'aimerais tant que le temps d'expression, tu aies confiance en moi. J'invente des mots, même s'il le faut, car ceux de mon cerveau ne sont plus à la hauteur. Moi, c'est ma baby, les dictons de la langue de mon cœur. Oh, oh, tu es mon moteur, mon inspiration, mon cœur. Tu es l'air de mes poumons, dis sans toi, c'est l'oppression. Ma baby, crois-moi. Thank you.
J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, princesse. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi, mon cœur s'envole, my love. J'ai trop de respect pour toi, pour te faire de la peine, princesse. Je serai toujours là pour toi, te garder près de moi. J'aimerais tant que le temps de ce milieu ait confiance en moi. My princess, je suis moi, je veux pas que tu t'en ailles. Si die, die, je pourrais te dire bye bye. My princess, tu imagines le pas que tu t'en ailles. Mes erreurs de brûle sur la faille. My princess, tu imagines le pas que tu t'en ailles. Si die, die, je pourrais te dire bye bye. My princess, tu imagines le pas que tu t'en ailles. Yeah, baby, on fly.
Voilà, nous avons notre invité dans ce studio. Nous parlons aujourd'hui des violences faites à la femme, cas du mariage forcé. Vous pouvez, si vous avez des témoignages là où vous êtes, vous pouvez nous appeler au 081-890-63-94. Vous avez la possibilité d'envoyer vos SMS au 081-070-2050. Et si vous nous écoutez sur Internet, vous pouvez nous écrire à l'adresse action@radiookapi.net. Nous avons notre invité dans ce studio. Il s'agit de Maître Dominique Kamwandou. Maître, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de l'ONG Avocats sans frontières. Alors, c'est quoi un mariage forcé?
Merci beaucoup. Le mariage forcé est le fait pour la personne qui exerce l'autorité parentale, c'est-à-dire les parents, père ou mère,
oui,
ou la personne qui exerce l'autorité tutélaire, c'est-à-dire un tuteur, ça peut être un oncle, une tante, un grand frère.
Oui.
Donc, le fait pour ces personnes de donner en mariage une personne qui est sur leur autorité sans le consentement de cette dernière.
Mm-hmm.
Cela peut consister au fait de marier la personne, c'est-à-dire vous prenez des engagements, vous mariez votre fille, votre nièce, sans avoir demandé son consentement, ou de fait de lui donner un mariage.
Oui.
Et c'est cela que la loi sanctionne comme étant un mariage forcé. Et avec la nouvelle loi sur les violences sexuelles, le mariage forcé est une des formes des violences sexuelles faites à la femme.
Et nous savons généralement, c'est surtout au Kassai où, par exemple, une petite fille est déjà pris, elle est déjà réservée pour un diamantaire, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, et les parents sont d'accord pour un tel mariage. Mais ça entre dans les cadres de la coutume, Maître Dominique.
En principe, la loi passe avant toutes les coutumes. Les coutumes contraires à la loi, contraires aux bonnes mœurs, ne peuvent pas être appliquées. Même si la coutume les prévoit, la loi s'impose de manière impérative. Personne ne peut prétendre violer la loi au nom de la coutume. Donc cela est interdit par la loi, cela est une infraction, et les auteurs, c'est-à-dire les parents ou les tuteurs qui font cela, sont poursuivables et peuvent être sanctionnés.
Est-ce que vous pensez que dans les milieux, par exemple dans les provinces, là où cette pratique c'est pas généralement, les gens sont informés de tout ça, que cela est condamnable par la loi?
Bon, il y a un principe, nul n'est censé ignorer la loi, ça c'est un principe général des droits.
Oui.
Les gens doivent se conformer à la loi, mais le fait aussi, c'est que ce que nous sommes en train de faire maintenant, c'est une manière d'informer les gens, c'est une activité de sensibilisation et de vulgarisation pour que les gens sachent que prévoit la loi et qu'ils sachent qu'ils sont tenus de respecter la loi.
Oui, et si par exemple au début la jeune fille avait refusé, mais après plusieurs pressions, elle accepte finalement d'épouser ce monsieur-là. Est-ce qu'on va encore parler de mariage forcé, Maître Dominique?
En principe, selon le code de la famille, le code de la famille parle d'un consentement valable. Un consentement valable, c'est un consentement qui est exempt de toute cause qui peuvent l'amener à être vicié ou qui peuvent amener à ce que le consentement soit donné malgré la personne. La personne peut donner un consentement malgré elle, par peur.
Oui.
Mais ça, ce n'est pas un consentement valable qui est exigé pour que le mariage se forme convenablement.
Maître Dominique, quand est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu mariage?
En principe, selon notre droit, il y a mariage lorsque les différentes conditions sont prévues. Par exemple, la première condition, c'est la capacité. Lorsque les personnes sont capables de contracter mariage.
Lorsqu'il y a une... que les personnes ont plus de 18 ans.
Selon le code de la famille, qui est une loi spéciale en matière de mariage, et on a toujours demandé que cette loi soit modifiée. Elle permet à ce qu'à partir de 15 ans, la fille, une fille peut être prise en mariage, mais ce sont des pratiques que l'on constate qui sont de moins en moins usitées de notre temps.
Mm-hmm.
Et puis, et pour le garçon, on exige qu'il ait 18 ans. Il faut qu'il y ait versement de la dot, c'est-à-dire que le mariage soit célébré en famille, et puis qu'il soit célébré ou enregistré par l'officier de l'état civil. Dès que ces conditions, et qu'il y ait aussi consentement libre des parties, un consentement valable, lorsque ces conditions sont réunies et que l'officier de l'état civil a soit célébré ou enregistré le mariage, c'est à ce moment-là qu'on peut parler d'un mariage valable conformément à la loi.
Alors maître Dominique, prenons le cas d'une jeune fille que ses parents, elle a par exemple 17 ans et ses parents elle demande d'épouser quelqu'un et elle ne veut pas, mais finalement sous la pression, elle cède, elle accepte. Est-ce que quelle est la voie de recours que peut, à laquelle peut recourir cette jeune fille?
En principe, on constate qu'il y a une des conditions fondamentales qui n'a pas été respectée, c'est-à-dire le consentement. La fille n'a pas donné son consentement à ce mariage. En principe, elle peut, après la célébration du mariage, dans le mois qui suit ou dans les temps qui suivent, demander l'annulation de ce mariage. Ce mariage peut être annulé si elle estime qu'elle ne peut pas.
Le problème, c'est qu'elle peut craindre ses parents, elle peut craindre d'être maudite par ses parents, ou elle ne veut pas que ses parents puissent tonner sur elle, et tout ça, maître, il faut considérer tout ça.
Effectivement, ça, ce sont des problèmes sociologiques. Ce sont des problèmes sociologiques qui ne sont pas pris en compte par la loi, mais la personne peut aussi dénoncer ces faits au niveau du parquet, au niveau de l'officier d'état civil.
Un mois après le mariage.
Non, même au-delà.
Avant de contracter le mariage, elle peut déjà se plaindre.
Mais ce qu'elle peut faire, par exemple, avant de contracter les mariages, quand l'officier de l'état civil affiche les bancs, publie les bancs des mariages, elle peut aller informer l'officier de l'état civil qu'on est en train de me pousser à faire ce mariage, c'est contre mon consentement, je ne suis pas d'accord. À ce moment-là, au moment du mariage, l'officier de l'état civil va opposer les manques de défauts de consentement, elle ne va pas célébrer ou enregistrer ces mariages.
Même si la dot a été déjà versée.
L'officier de l'état civil qui est au courant avant la date de l'enregistrement ou de la célébration du mariage, qu'il y a une condition, une des conditions fondamentales qui fait défaut, peut refuser de célébrer le mariage ou de l'enregistrer.
Et on peut considérer ce mariage-là comme nul, donc il n'y a plus...
Non, dès lors que cela a été constaté par l'officier de l'état civil qui a refusé, qui a dressé un procès-verbal pour cela, on considère qu'il n'y a pas mariage conformément à la loi.
Voilà. Ok, nous avons déjà quelques réactions des auditeurs.
Oui, il y a des réactions déjà. Il y a M. Gabo qui a réagi à partir de Harou. Il dit, ici, certains parents acceptent le mariage de leurs jeunes filles pour gagner des vaches et de l'argent qu'on appelle collation de la jeune fille. Et puis, il y a une autre réaction. Que dire des mineurs qui sont prises en mariage? Enfin, on a une dernière réaction. Que peut-on dire des musulmans qui obligent leurs filles de se marier à l'âge de 14 ans? Est-ce que les règles religieuses sont au-dessus de la loi, maître Dominique?
Je commence par dire que la République démocratique du Congo est un État laïque. Et pour ce faire, les règles des confessions religieuses ne sont pas supérieures à la loi. La loi doit être appliquée à toute personne, quelles que soient ses convictions religieuses, quelle que soit son église ou sa religion. Pour revenir à la situation des vaches, effectivement, c'est une situation réelle. Les parents doivent savoir que leurs filles ne constituent pas des marchandises ou un fonds de commerce. Et pour revenir à la question que tu as posée avant, de savoir si avant il y a eu contrainte et que puis après la fille a essayé de se plaire d'accepter un compromis et tout ça. Mais en droit, les faits ou l'infraction se cristallisent au moment des faits. C'est-à-dire que l'infraction est consommée au moment des faits, au moment où il n'y avait pas où il y avait absence de consentement. C'est à ce moment-là que le mariage a été considéré comme un mariage forcé. Si par la suite, elle avalise bon, on peut dire que c'est un problème de relations humaines, mais en principe, dès lors qu'il n'y a pas eu consentement, la personne a été forcée de se marier, car les conditions sont réunies pour que l'infraction soit établie.
Alors, d'après la réaction d'un auditeur, on comprend que si certains parents le font, c'est peut-être pour c'est à cause de la pauvreté. Ils veulent un peu s'enrichir, il y a des vaches qui vont gagner. Donc, ils, cherchent à marier leur fille
à l'est du pays, ils ont des vaches.
On donne des vaches ou au Kassai, où un parent peut accepter de marier sa fille à quelqu'un diamantaire, quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Hein, maître.
Effectivement, la cause étant illicite, cela ne peut pas être couvert par la loi. La loi réprime cela et toute personne qui a connaissance de pareilles pratiques peut dénoncer cette infraction au niveau de l'officier du ministère public, au niveau du parquet.
Mm-hmm. Maître Dominique, la loi condamne le mariage forcé, vous venez de le dire, mais pourquoi beaucoup de jeunes filles sont soumises à ce type de mariage? Est-ce par ignorance?
Il y a un problème de prise de conscience des parents. Et il y a aussi un problème des parents, comme on dit à l'intérieur. Bien sûr qu'il y a un principe qui dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais beaucoup des personnes sont encore sous l'emprise des coutumes. Ils trouvent que ce qu'elles font, conformément à la coutume, est correct et régulier et continuent à le faire en dépit des modifications et des mutations de la société et des nouvelles règles qui nous régissent. Effectivement, il y a des gens qui le font par ignorance, mais il y a aussi des gens qui le font fort de la coutume. Ils savent que la coutume leur donne ce pouvoir-là et que cela est valable, mais ces personnes doivent savoir à partir de ce moment que cela est condamnable. En faisant cela, elle s'expose à des sanctions prévues par la loi.
Oui, Maître Dominique, nous avons en ligne Madame Faïla Mwangilwa, elle est activiste des droits de la femme. Madame, bonjour.
Bonjour.
Alors, nous parlons aujourd'hui des violences faites à la femme, cas du mariage forcé. Vous êtes activiste de droits de la femme. Quel état des lieux faites-vous de cette question?
Oui, effectivement, la situation socio-économique rend davantage ces mariages possibles parce que le mariage, dans l'entendement de notre constitution, c'est une union libre, c'est un consentement entre l'homme et la femme.
Oui.
Mais lorsqu'alors on voit plus l'intérêt ou les intérêts que de voir plutôt l'affection qui unit les deux personnes qui prennent la décision de vivre ensemble, là ça pose problème. Et c'est comme ça que vous voyez, ce sont des mariages qui ne durent pas, des unions qui ne durent pas, et une année, deux ans après, on vous parle de divorce, et nous, dans le temps, on ne connaissait pas les divorces.
Mmh.
Donc ça, c'est un problème, c'est une responsabilité et des parents et des filles elles-mêmes, parce qu'il y en a ceux-là qui disent non, des filles qui disent non devant des pressions qu'elles subissent de la part de leurs parents, et elles disent non. Donc voilà ce que nous pouvons dire à ça.
Si elles disent non, ça peut leur coûter cher, hein?
Mais non, ça ne peut pas vous coûter cher, parce que de votre vie, on vous force, mais qui va rester avec le monsieur? C'est vous-même. Et si, par rapport au comportement, ici c'était pour l'argent, et lorsque l'argent disparaît, parce que c'est pas tous les jours qu'on a l'argent, lorsque l'argent disparaît, eh bien, la femme est obligée de quitter, et même la famille qui comptait sur cette fille, qui attendait de l'engendre beaucoup d'argent ou quoi, mais si le monsieur ne donne plus, ça pose problème aussi au niveau de la famille. Voilà pourquoi le mariage doit être un consentement alors entre l'homme et la femme, et pas des choses forcées au niveau de l'extérieur.
Alors vous, en tant qu'activiste des droits de la femme, je pense que vous avez fait quelques études là-dessus. C'est généralement dans quel coin du pays où on retrouve beaucoup de cas de mariage forcé?
Bon, d'abord, c'est plus dans les villages, mais c'est là, compte tenu des conditions, comme je l'ai dit, de la détérioration de la situation socio-économique, c'est presque partout. C'est presque partout. Vous voyez des jeunes gens venir de l'Europe, tout simplement parce qu'ils viennent de l'Europe et forcés à ce qu'elles prennent en mariage. Les gens croient qu'ils ont beaucoup d'argent parce qu'ils viennent de l'Europe, mais non, la réalité est tout autre. On ne se marie pas pour l'argent, on se marie pour la vie d'abord.
Oui, alors Madame Faïla Mwangilwa, à votre niveau, qu'est-ce que vous faites concrètement pour arrêter ces fléaux, si on peut le dire? Quelles sont les actions que vous menez sur terrain pour combattre ces mariages forcés?
ce que nous faisons d'abord, c'est le plaidoyer. Lorsque nous insistons sur la scolarisation de la jeune fille, c'est le moyen, en tout cas, le moyen obligé pour garantir l'autonomisation de la femme. Parce que lorsqu'on est dans des situations difficiles sur le plan économique, eh bien, on est tenté, on est poussé à n'importe quoi. D'abord, la scolarisation, oui. L'égalité des traitements entre les filles et les garçons. Il faudrait qu'on leur donne au niveau des familles les mêmes chances pour pouvoir bénéficier d'une scolarisation réussie. Et lorsqu'à ce niveau aussi, nous sommes en train de travailler par rapport à l'intégration de la femme dans les postes de prise de décision, dans l'obtention d'emploi,
oui.
Pour qu'il n'y ait pas de discrimination. Parce que lorsqu'une fille a gagné sa vie à son travail, elle va se marier, elle va apporter aussi sa contribution pour la réussite du couple, du foyer. Et ça, c'est une façon vraiment de la rendre beaucoup plus autonome sur le plan économique. Voilà, mais brièvement, c'est d'abord la scolarisation, l'autonomisation de la femme.
Alors, vous avez parlé de la scolarisation de la jeune fille. Nous savons qu'à une époque, l'UNICEF avait lancé la campagne « Toutes les filles à l'école ». Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cette campagne a apporté des fruits, a produit de bons résultats sur le terrain?
Je dois vous avouer, parce que j'étais dans la campagne, je dois vous avouer que cette mesure a apporté beaucoup plus de résultats. Toutes les filles à l'école, la campagne menée par l'UNICEF en partenariat avec le gouvernement. Pour la première fois, au cours de l'année scolaire, sujet bonne mémoire, 2004-2005, pour la première fois donc, on a vu les effectifs des filles qui ont réussi à obtenir leur certificat d'études, de fin d'études primaires, augmenter. Donc les effectifs étaient plus élevés par rapport aux jeunes garçons. Donc là, nous disons que vraiment ça a aidé à intégrer les filles à l'école et je pense qu'il faut des mesures spécifiques pour renforcer cela.
Alors, Nonongoel, vous avez une question.
Madame Faïla, malgré tout ce que vous faites, les violences sexuelles faites à la femme continuent sur terrain. Beaucoup de personnes restent encore ignorantes face à l'actuelle loi sur les violences sexuelles. Ne pensez-vous pas que vous devez sensibiliser davantage?
Oui.
Oui, effectivement, la lutte contre les violences sexuelles, ça ne doit pas être une affaire de seules organisations féminines ou des activistes des droits de la femme. C'est une affaire de tout le monde. Et le gouvernement, la société civile, les leaders d'opinion, nous devons comprendre que c'est un fléau. Nous devons comprendre que c'est un crime. Lorsqu'on aura la même compréhension par rapport à l'ampleur de liées aux violences sexuelles, là, nous allons atténuer l'impact. Donc, mais vous, les journalistes également, vous devez nous aider parce que il y a des gens qui continuent à banaliser les violences sexuelles, estimer qu'elles n'existent pas. Et à ce moment-là, nous attendons vraiment une grande participation des gens des médias, donc des journalistes à tous les niveaux, au niveau des radios, au niveau des télévisions, mais aussi nous attendons beaucoup plus des églises. Nous sommes en train de faire notre travail de sensibilisation, mais nous ne pouvons réussir que si nous sommes appuyés et par le gouvernement et par la société civile. Mais là aussi, c'est l'application. Nous avons obtenu la loi sur les violences sexuelles promulguée par les chefs de l'État, mais la mise en application pose problème. Pour autant qu'on ne voit pas des auteurs passer et être jugés, condamnés, quelques-uns sont condamnés. Mais quelques temps après, on nous dit non, ils se sont évadés des prisons. Voilà, comment on va apporter la correction? Je crois qu'à ce niveau-là, nous devons de plus en plus nous mobiliser encore pour que les auteurs soient sévèrement punis et que la loi soit respectée.
Madame, vous ne pensez pas que vous devez travailler aussi en partenariat avec tous ceux qui disent le droit, comme ça vous vous comprenez facilement?
Oui, effectivement, et on est en train de le faire dans tout ce que nous faisons comme activité. Nous associons les magistrats, nous devons également commencer à associer les juges, mais nous les faisons déjà, mais ça doit être une réalité sur terrain parce que ce sont les hommes de la loi qui doivent également nous aider. Ils font leur travail, mais j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas assez de moyens.
Oui, Faïla Mondila, nous rappelons que vous êtes activiste des droits de la femme. Parlons un peu de cette pratique qu'on appelle le kintsugi. Je crois, dans la province du Bandundu, le mariage entre ascendants et descendants, le mariage entre des personnes d'une même souche, est-ce que c'est également une forme de violence faite à la femme?
Moi, je crois que à un certain degré, c'est également une forme de violence, mais vous pouvez être, disons, de même village, mais s'il y a le consentement, moi je me dis, ces gens-là peuvent se marier, mais il ne faut pas que ça soit des choses forcées, tout simplement parce que tu es ma nièce et je dois te prendre en mariage. Là, nous disons non. Non, pas du tout. Mais on doit aussi éviter des actes, aller au-delà des normes.
Oui, restez en ligne. Nous avons également dans ce studio Maître Dominique Kamwandu de l'ONG Avocats sans frontières. Alors Maître, les tu dis au bandes d'où est-ce que c'est la loi condamne cela?
En principe, la loi interdit, il y a dans la loi ce qu'on appelle les mariages prohibés. Lorsqu'il y a des liens de consanguinité jusqu'à un certain degré, la loi interdit ce genre de mariage. Et aussi, s'il n'y a pas consentement entre les deux futurs conjoints, même s'il s'agit de qui tu dis que c'est une histoire qui est arrangée par les parents et tout ça, et là aussi est condamnable par la loi. Mais si il arrive que des gens sont d'une même famille et que les liens qui les unissent ne peuvent pas empêcher les mariages conformément à la loi, et qu'il y a consentement, cela ne pose pas de problème.
Alors, est-ce que cette pratique peut être considérée comme l'inceste?
L'inceste, ça dépend d'une... la loi interdit les mariages incestueux, mais si ce sont des personnes qui descendent d'une même lignée à un certain degré, cela peut être considéré comme
un mariage entre cousins,
des cousins germains, et tout ça, cela peut être considéré, par exemple, comme de l'inceste, et la loi interdit les mariages incestueux.
Et quelle est la peine qui est appliquée pour ce cas?
En tout cas, la loi ne prévoit pas, en principe, le code de la famille interdit les mariages et dit que ces mariages-là ne peuvent pas être... ne peut pas être célébré ni enregistré par l'officier de l'état civil, mais la loi ne l'érige pas en infraction, ne prévoit pas une peine d'amende ou de prison pour cela.
Mais nous savons que depuis plusieurs années, on a toujours entendu parler de cela, c'est des mariages qui ont été célébrés plusieurs fois depuis plusieurs années. Alors on se demande si la loi n'était pas appliquée pendant tout ce temps.
Bon, l'application de la loi dépend aussi de l'information qui est portée à la connaissance de l'officier de l'état civil qui doit célébrer les mariages. Lorsque l'officier de l'état civil a l'information, l'officier de l'état civil peut refuser de célébrer ces mariages. Mais lorsque l'officier de l'état civil ne connaît rien, il n'a aucune information et qu'il vérifie et que selon lui, les conditions requises par la loi sont respectées, lui, c'est son devoir de célébrer le mariage. Donc c'est ça la difficulté qui fait que la plupart des faits de ces gens ne sont pas portés à la connaissance de l'autorité qui doit prendre des mesures ou qui doit prendre la décision.
Et maître, parlons aussi de l'évira. On dit, par exemple, la veuve, lorsque, par exemple, quelqu'un meurt, et puis la femme se marie, on l'oblige à se marier au frère défunt, par exemple à son petit frère. Est-ce que et ça, c'est condamnable également par la loi?
En principe, cette pratique place la femme dans une situation d'héritage, c'est-à-dire dans une situation d'un bien qui est dans le patrimoine du défunt et qui doit être cédé à sa descendance ou aux autres membres des familles. Mais selon la loi congolaise, l'héritage d'une personne comprend son actif et son passif, c'est-à-dire les biens. La personne humaine, la femme, ne peut pas être considérée comme un bien pouvant faire l'objet de la succession. Et sur cet aspect-là des choses, la loi interdit cette pratique. Et lorsque nous allons plus loin en ce qui concerne les coutumes, cette pratique, c'est une pratique qui avilit les femmes, qui fait que les femmes n'aient pas de considération, soient considérées comme un objet, comme une chose. Et pareil, coutume, c'est une coutume qui est contraire à la loi, est contraire aux bonnes mœurs, et pareille coutume ne peut pas être appliquée. Donc la loi interdit cela. Et cela est aussi une forme de mariage forcé. Mm-hmm. Et en tant que tel, c'est une forme de violence sexuelle qui est sanctionnée par la loi.
Maître Dominique, le levira est interdit, vous venez de le dire, mais nous savons que cette pratique continue, surtout dans le Kasaï. À notre connaissance, on n'a jamais entendu qu'on a arrêté quelqu'un pour
parler de condamnation, et que la loi est
arrêtée. Là-bas au Kasaï.
Effectivement, il y a des choses qui se passent, l'infraction est commise, mais pour qu'il y ait sanction, il faut que la justice soit saisie. C'est ça la difficulté. Il faut que l'officier de l'état civil soit, par exemple, saisi par une plainte ou qu'il ait une information. Là, il peut se saisir d'office. Et
mais
que
tant,
les dossiers...
tant que ce n'est pas dénoncé, ce n'est pas un problème.
Non, on ne dit pas que tant que ce n'est pas dénoncé, ce n'est pas un problème. Oui. L'infraction demeure, mais tant que l'infraction n'est pas portée à la connaissance de l'organe de poursuite, c'est difficile de sanctionner.
Voilà, c'est difficile de sanctionner. Nous allons retrouver tout à l'heure notre deuxième invité. Il s'agit de Madame Faïla Mwangi-Loa. Elle est activiste des droits de la femme. Donc, Maître Dominique, nous pouvons dire que le levira est une forme de violence faite à la femme.
Effectivement, lorsqu'il est considéré comme un mariage forcé, une personne qui est contrainte d'accepter le mariage malgré son refus ou on ne tient pas compte de son consentement, il s'agit d'un mariage forcé qui est une forme de violence sexuelle réprimée par la loi.
Je dis, est-ce qu'on peut donner encore une fois la parole à nos auditeurs?
Oui,
on a beaucoup de réactions.
Oui.
Maître Dominique, cette question s'adresse à vous. La législation congolaise peut-elle concilier le mariage forcé au viol commis sur une mineure de moins de 15 ans? C'est Yann qui nous écrit de Kananga.
Il s'agit là, bien sûr, des violences sexuelles, mais des deux infractions distinctes. Le mariage forcé, l'infraction est retenue à charge des parents ou des tuteurs, des personnes qui ont l'autorité sur la personne et qui l'ont forcé à contracter mariage. Mm-hmm. Et si ce mariage a été réalisé et que la fille a été donnée à un monsieur qui l'a pris et qui a eu des relations sexuelles avec la fille, malgré le refus de la fille sans son consentement, cela est un viol. Le monsieur peut aussi être poursuivi pour viol.
Oui, il y a une autre question. On dit quand peut-on parler du mariage forcé? Ça, je crois que vous avez répondu déjà à cette question.
Effectivement, dès lors qu'il n'y a pas la volonté libre de la personne qui s'engage, ou de la fille ou de l'homme qui veut contracter le mariage.
Oui, est-ce qu'il y a des sanctions prévues pour des filles de 18 ans qui violent les petits garçons de moins de 18 ans?
Effectivement, au départ, l'ancienne loi ne considérait comme victime des viols que les filles. Non, que les filles,
oui.
Comme victimes ou les femmes. Mais la nouvelle loi considère que même les hommes, même les garçons peuvent être victimes des viols. Dès lors qu'une fille ou une femme majeure a contraint un mineur garçon d'avoir des relations sexuelles avec lui, avec elle, cela est un viol réputé. Effectivement, c'est un viol. La volonté du jeune garçon à ce moment-là est inopérante. La personne peut être condamnée.
Violence faite à la femme, cas du mariage forcé, c'est le sujet sous examen aujourd'hui dans Okapi Action. Vous avez des témoignages ou soit vous êtes victime de cette situation. N'hésitez pas à nous appeler au 081-890-6394. Vous avez également la possibilité d'envoyer vos SMS au 081-070-2050. Si vous nous suivez sur Internet, vous pouvez nous écrire à l'adresse action@radiokapi.net. Tout à l'heure, là, nous avons reçu Madame Faïla Mwangi-Loa, activiste des droits de la femme, mais on n'a pas pu continuer cet entretien. Quand même, nous disons merci à Madame Faïla d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. Maître Dominique, nous vous gardons encore dans ce studio le temps de souffler un tout petit peu.
Oh, Baba, attends, histoire. Ah ouais, les gars en Guadé, y'a ma lingue. La raison comme les gars, j'en suis en fin de la race. Gagnez-vous à vos têtes, à l'hôtel de Sino.
Oh,
Violence sexuelle faite à la femme. Aujourd'hui, on parle des violences faites à la femme, cas du mariage forcé. Et vous savez, en République démocratique du Congo, certaines filles ou jeunes femmes sont parfois données à mariage sans leur consentement. Une fille peut être forcée de s'unir à un homme pour des intérêts matériels ou pour des motifs liés à la coutume. Et dans bien des cas, ces types d'unions constituent un véritable calvaire pour ces femmes. Quelles sont les sanctions prévues par la loi congolaise en matière de mariage forcé? Nous en parlons aujourd'hui avec Maître Dominique Mwandu de l'ONG Avocats sans frontières. Et nous avons eu en ligne Madame Faïda Mwangila, activiste des droits de la femme. Alors, Maître Dominique, par rapport à ces cas de mariage forcé, si une jeune fille, par exemple, va se plaindre au niveau du tribunal, voilà, et puis le tribunal va prononcer un verdict, et disons, qui est-ce qu'on va condamner? C'est beaucoup plus le parent ou c'est la personne qui est venue prendre la fille en mariage?
En principe, selon la loi, l'infraction de mariage forcé est retenue à charge des parents ou de toute autre personne qui exerce l'autorité sur la fille.
Ouais.
Et on doit aussi savoir, on a beaucoup parlé de la fille, mais la loi ne fait pas de distinction entre la fille et les garçons. Même les garçons qui sont victimes des mariages forcés peuvent aussi se plaindre, peuvent demander que ces mariages soient annulés.
Est-ce qu'il y a déjà eu des, beaucoup de cas pour les garçons? On dit, voilà, tu vas te marier à telle ou telle fille.
Tout à l'heure, tu as longuement parlé de la pratique de qui tu dis.
Oui.
Et cela s'impose aussi bien sur les garçons que sur les filles. Ce ne sont pas seulement les filles qui sont victimes. Moi, je connais les cas de personnes qui avaient des garçons, qui avaient leur fiancé, et les parents se sont opposés. Et ils ont insisté pour que le garçon prenne en mariage la fille qu'on lui proposait. Donc, c'est la situation que l'on remarque, bien sûr, avec beaucoup plus d'effets sur les filles, mais on remarque aussi cela sur les garçons.
Non, on peut parler aussi des violences faites à l'homme aussi.
La loi ne parle pas des violences faites à la femme, mais la loi parle des violences sexuelles.
Oui.
Et filles comme garçons, hommes comme femmes peuvent être victimes.
Et pourquoi on insiste souvent sur la femme et pas sur l'homme, alors que les hommes aussi peuvent être victimes de ça, maître?
Effectivement, les hommes aussi. Selon la loi ne fait pas de différence.
Oui.
Bon, ce sont les femmes qui mettent plus en avant le combat de l'émancipation de la femme, la lutte pour les droits de la femme, parce que dans la plupart des cas, la femme n'était pas prise avec beaucoup de considération dans nos sociétés.
Oui, vous avez votre réaction, mes auditeurs.
Voilà. Maître Dominique, il y a un auditeur qui dit, je m'appelle Kingombe Lusiki. Pour le moment, nous voyons même les filles de 15 ans se marier aux hommes de 50 ans. Et l'officier de l'état civil est souvent complice. C'est punissable. Quelle est votre réaction?
Bon, on a dit ceci. En principe, le code de la famille, qui est une loi spéciale sur les mariages, autorise qu'à partir de 15 ans, une fille peut se marier. Si la fille consent à ce mariage, le problème ne se pose pas. L'officier de l'état civil peut célébrer ou enregistrer les mariages. Mais si la fille n'a pas consenti et qu'elle a été forcée, là nous tombons dans la situation des mariages forcés dont nous avons parlé tout à l'heure. Ça, c'est punissable par la loi. Et si l'officier de l'état civil enregistre un tel mariage, sachant que ce mariage ne remplit pas les conditions prévues par la loi, l'officier de l'état civil lui-même s'expose aux sanctions qui peuvent être des sanctions administratives, c'est-à-dire son chef hiérarchique peut prendre des mesures, des suspensions.
Vous avez entendu ça, hein?
Ou alors, il y a des sanctions prévues par la loi. Lorsqu'il ne fait pas bien son travail, il peut encourir jusqu'à 2 mois de prison.
Ok.
2 mois de prison, vous ne trouvez pas que c'est...
La sanction, mais si on restreint votre liberté, mais c'est que pendant 2 jours ou 3 jours, vous allez vous rendre compte de ce que c'est.
Alors, je disais tout à l'heure, maître, que si, par exemple, vous avez dit que ce sont les parents qui sont condamnés dans de tels cas, mais la personne, par exemple, un vieux papa des 50 ans, disons, qui veut aller épouser une petite fille de 14 ans, il est conscient, il sait qu'elle est encore mineure, mais il veut absolument la prendre en mariage. Est-ce qu'il n'est pas condamnable également par la loi?
Effectivement, nous avons dit qu'il faut faire la part des choses. Pour les parents, il s'agit de l'infraction du mariage forcé, mais pour la personne adulte qui prend en mariage une fille, malgré le consentement de la fille et qui a des relations sexuelles avec cette fille, cette personne est en train de commettre l'infraction de viol et il est punissable. Et la personne est punissable par la loi, on peut les sanctionner.
Nous avons beaucoup parlé jeudi de l'Evira. Il y a une réaction du Kassaï. Il y a un monsieur qui nous dit les jeunes filles au Kassaï demandent à leurs parents de les envoyer au mariage. Qui punir dans ce cas? Le papa ou les parents ou bien...
Bon, si la fille a manifesté la volonté de se marier, là, il n'y a pas mariage forcé, il n'y a personne à punir.
Non, on dit que si c'est une mineure, c'est condamnable par la loi, même si elle a accepté.
Si cela est dans le cadre de mariage, là, le code de la famille prévoit qu'à partir de 15 ans, on peut se marier.
Oui.
Là, c'est différent, parce que pour le mariage, on punit le viol, même si la fille est mineure, parce qu'on se rend compte que la fille n'a pas de maturité.
Maître Dominique, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation et peut-être à la prochaine. Merci, au revoir.